France Musique. Les grands entretiens, Benoît Dutertre.
Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Gabriel Bacquier. Je suis né le 17 mai 1924 à Béziers, Hérault, 34. Et je suis aujourd'hui personne.
Madamina, il catalogo è questo, belle belle come il padrone mio, un catalogo che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, in Spagna, ma in Spagna sono già 1003.
Gabriel Bacquier, 1960, je le disais, vous avez chanté avec la Tebaldi dans la Tosca à l'Opéra, mais c'est aussi l'année d'Aix-en-Provence pour vous, de vos débuts à Aix, et on peut dire que ça a été peut-être encore un tournant dans votre carrière, la vraie consécration, ça a été beaucoup à Aix-en-Provence et beaucoup donc à travers le directeur du festival d'Aix, Gabriel Dussurgé, qui avait été un tel découvreur de talent. Et qui d'ailleurs n'était pas seulement le directeur d'Aix, parce qu'il travaillait aussi pour l'Opéra de Paris, donc il suivait les carrières de tous les jeunes chanteurs.
Exactement.
Comment est-ce qu'il s'est...
C'est d'ailleurs parce qu'il m'avait entendu à l'Opéra, qu'il m'avait fait cette proposition de chanter Don Juan en italien, évidemment, à Aix.
À Aix-en-Provence.
En 1960.
Alors, vous êtes allé donc à Aix pour les répétitions au début de l'été, et là vous avez rencontré celle qui épaulait beaucoup Dussurgé dans le travail avec les chanteurs, qui était... Irène Aïtoff, la grande chef de chant.
Oh, mais Irène Aïtoff, j'étais obligé de la voir un peu avant pour apprendre mon rôle.
Voilà, c'est ça. Oui. Irène Aïtoff était surnommée par Dussurgé la veuve Mozart.
Oui, parce qu'elle avait beaucoup de partitions originales qu'elle s'était procurées, mais d'originales, attention, des copies. Elle connaissait ça parfaitement. Je pense qu'elle aurait pu jouer la partition, en tout cas de Don Juan, sans ouvrir la partition.
Vos débuts dans Don Juan, c'est donc le 9 juillet 1960. Vous vous rappelez le spectacle ?
Bien sûr, mais j'attendais tout et rien de résultat. Je ne savais pas ce que ça allait donner, comment on pouvait me trouver. Mais comme j'avais eu l'occasion de le faire pas mal de fois, encore à droite, à gauche, comme ça, je possédais ça assez bien. Et donc je me suis lancé là-dedans, presque les yeux fermés, si je peux dire, en attendant qu'on me dise, oui, ben, ça nous plaît ou ça nous plaît pas. Alors, ça a plu. C'est pas comme quand je l'ai chanté à Berlin, ils ont trouvé que j'étais trop méridional. Alors je dis, mais il est d'où, Don Juan? Où est-ce qu'il est né? À Don Juan, en Espagne, non?
Oui, pas dans le Nord, oui. On a parfois dit, c'est peut-être des rumeurs qui vous déplaisent, mais que si vous jouiez si bien Don Juan, c'est que vous aviez vous-même dans la vie un côté un peu... Vous étiez un séducteur.
C'était ma femme qui disait ça.
Ah bon ?
À ce moment-là. Il est Don Juan à la ville et sur scène, il est lui-même.
Elle se trompait ?
Non, elle avait raison.
Et c'est pour ça que vous étiez si bien dans le rôle ?
Voilà.
Sans doute.
Qui sait ? C'est-à-dire que à la ville... Je me défoulais, et à la scène, j'étais bon.
Vous avez, au cours des années suivantes, Gabriel Bacquier, beaucoup chanté donc au Festival d'Aix-en-Provence.
Oui.
Après Don Giovanni Così fan tutte, vous avez chanté ensuite Les Noces de Figaro, puis Péléas, puis Falstaff, puis L'Élixir d'Amour, puis Don Pasquale. Donc à partir d'Aix-en-Provence, vous êtes devenu un chanteur encore plus célèbre et encore plus invité un peu partout dans le monde. Gabriel Dussurgé.
Il m'a rendu ce que je suis, ce que je suis devenu, en tout cas.
Vieni alla finestra, oh mio tesoro.
se neghi a me di dar qualche ristoro davanti agli occhi tuoi morir voglio.
Gabriel Baquet, on a évoqué précédemment le tournant qu'a représenté le Festival d'Aix-en-Provence dans votre carrière, avec notamment les rôles mozartiens, pour commencer. Mais c'est aussi à Aix-en-Provence que vous avez abordé pour la première fois un rôle que, je ne sais pas si j'exagère, mais vous vous étiez juré de jamais chanter, tellement ça ne vous parlait pas. C'était le rôle de Golo dans Péléas et Mélisande, qui était un opéra que vous n'aimiez pas.
Ce n'est pas que je ne l'aimais pas. C'est parce que j'avais vu à Glyndebourg Michel Roux là-dedans et que je me disais, je ne peux pas être mieux, c'est pas possible. Il était parfait, il avait la stature, il avait la voix, il avait tout ce qu'il fallait. Je dis, vous m'offrez ce rôle-là, c'est pas que ça me déplaît, mais je ne me crois pas capable d'arriver au résultat où lui en est arrivé.
Mais la musique même ne vous parlait pas beaucoup au tout début, en tout cas quand vous étiez étudiant et que vous découvriez l'opéra.
Quand j'étais étudiant, ça, je faisais comme tout le monde. Je trouvais ça un peu du quasi-parlant.
Voilà, quoi. C'est ça.
Oui. Et voilà. Et non, mais après, il est évident que ma femme actuelle, Sylvie Ousenko, pour ne pas la nommer,
qui vous a consacré un livre passionnant,
me reproche de dire toujours non avant de connaître, parce que c'est comme ça. Je dis non, puis après je dis oui, et après je dis peut-être. Et pour PDA, si c'est pas ça, il a fallu que Serge Baudot,
qui était le chef d'orchestre de ce spectacle, donc pour Aix-en-Provence,
m'impose. Finalement, il me va essayer de me faire aimer le personnage, la musique surtout, à coups de pâté de grive et de vin blanc. Et vous savez comment il s'appelait, celui qui fabriquait les pâtés de grive?
Non.
C'est très embêtant à dire. Il s'appelait Monsieur Pourchier.
Monsieur Pourchier, oui, très bien. Et donc, Baudot et Dussurgé vous proposent finalement Golo et vous finissez par dire peut-être et même oui.
Alors, j'ai attendu le résultat. C'est tout. Le lendemain, le résultat des critiques, et ainsi de suite. Et j'ai attendu pour voir ce qu'il disait. Et il disait que j'étais parfait dans ci, dans ça, dans l'autre, hein, qu'on avait remarqué ci, qu'on avait remarqué là. J'ai dit, alors c'est moi qui suis un imbécile, hein, parce que je n'y comprends toujours rien, et ça marque. Mm-hmm. Alors dois-je continuer à jouer de cette façon, c'est-à-dire sans comprendre ce que je fais, ou alors dois-je m'y mettre tout à fait pour essayer de faire mieux? Eh bien, quand j'ai vu que ce rôle-là, évidemment, finalement me collait à la peau, là, je me suis donné à fond.
Considérez Golo comme un de vos grands rôles, à l'égal peut-être de Scarpia, que vous avez beaucoup chanté aussi.
C'est pas comparable du point de vue dramaturgie, oui.
Ouais. Ouais. Comment est-ce que vous abordez ce genre de personnage pour en faire une création scénique? Est-ce que ce sont les metteurs en scène qui vous ont appris à découvrir vos personnages?
Oui. Il est là.
Sur le mur, hein, sur votre mur où il y a beaucoup de lettres et de souvenirs. Gabriel Baquet, oui, effectivement, là, je vois une lettre donc de Giorgio Strehler, le grand Strehler,
qui, ouais,
en français d'ailleurs, qui dit, voilà, qu'une de ses rares joies a été sa rencontre avec vous, ouais. etc. etc.
J'ai déjà planteur. Hein.
C'était dans Les Noces de Figaro,
oui.
la célèbre mise en scène de l'Opéra de Paris.
Voilà.
Et lui, il vous a appris votre personnage.
C'est-à-dire qu'il m'a fait découvrir ce que je ne croyais pas pouvoir faire. Il m'a fait ajouter dans le personnage du comte des choses qui viennent en surimpression de ce qu'on fait traditionnellement. C'est-à-dire que je rentre d'une façon, par exemple, dans la chambre de la comtesse, d'une manière ridicule, avec le fusil à la main, comme ça, comme si je cherchais un bandit. Personne n'a écrit ou dit il faut que le personnage rentre avec le fusil, et je ne sais plus. Tu vois. Mais là, je dois dire que ça apportait quelque chose de ridicule. C'est comme quand je rentrais avec le marteau ouais. et le pied de biche pour ouvrir la porte, ouais. où il est censé être enfermé chez Rubin. Il y a tout ça où je laisse tomber tout, plaf, comme ça, sur une réplique. C'est pas écrit dans la partition qu'il doit faire ça. Et alors là, il m'a vraiment fait découvrir un personnage du conte. On pourrait le qualifier de ridicule à ce moment-là. Mais il ne l'est pas, il est drôle. Ouais. Finalement, on prend pitié de lui. Parce que c'est lui qui se met dans cette situation. D'ailleurs, la réplique à la fin est magnifique. Contessa, perdono, perdono, perdono.
Les grands entretiens de Gabriel Baquier, France Musique.
Il demande pardon pour tout. C'est superbe. Vous savez, quand on a des metteurs en scène de cette dimension, et quand on a le metteur en scène aussi, qui m'a mis en place Othello,
Terry Hunt,
et qu'on travaille personnellement, particulièrement, certaines choses avec lui en scène, tous les deux seuls, pour arriver à avoir l'effet qu'il escompte, t'as qu'à se laisser guider. Parce que ce sont des choses auxquelles on a peut-être pensé, mais pas osé faire. Alors, on découvre au fur et à mesure ce personnage qui prend une dimension. Il y a eu un seul moment magique dans ma carrière. C'est le travail que j'ai fait autour du rôle de Iago dans Othello. Avec Placido Domingo, qui prenait son personnage pour la première fois, dont nous avons construit ça ensemble avec Terry Hines. Nous avons fait un travail inimaginable, sans nous en rendre compte. Allez, nous nous sommes livrés à fond. Même, ça pouvait nous esquinter, nous fatiguer, je n'en sais rien, laisser des traces, ça ne comptait pas. Pour moi, ce que je ressentais, c'était le résultat d'affection, d'amitié, de machin. Voilà. C'était ça qui m'entraînait. Et j'aurais pu être à fond pendant 8 jours, je m'en foutais. Ça m'aurait gêné si c'était pareil au moment des représentations. Et l'amitié que ça a laissé entre nous, entre tous les quatre, c'est-à-dire Derriens, Placido et moi. Et puis, Scholti, voilà. Scholti, il m'a dit une fois, excusez-moi, Gabriel, parce qu'il s'était mis la baguette dans l'œil. Et ça pissait comme ça, il était parti, il était plus là, en plein monnaie des Noces de Figaro. Alors, il me dit, excusez-moi, Gabriel, je vous ai gâché votre air. Et je lui ai répondu, non, maître, je ne vous regarde pas. Ça veut dire que si je le regardais, je me foutais dedans. Il me gênait tellement, il gesticulait.
Néanmoins, il a fait partie de ce moment de grâce, donc 1976, à l'Opéra de Paris, avec Placido Domingo dans Othello.
Attention, je plaisante là, beaucoup, mais dans ce qu'il a obtenu dans la construction de Falstaff, c'est quelque chose. Hein. Alors ça, un autre collier au pupitre, ça ne serait pas passé comme ça. Parce que les ensembles sont terribles, et il fallait un type comme Scholti pour obtenir ce résultat-là.
Quand même, Gabriel Baquier, que puisque vous êtes baryton et que le répertoire est ainsi fait, vous avez été porté aussi vers des rôles souvent assez sombres, assez durs comme personnage. Est-ce que vous aimez bien jouer les méchants?
Non, pas spécialement. Moi, je préfère le léger, de toute façon.
Enfin, n'empêche que vous avez été un Scarpia extraordinaire et c'est quand même un sadique.
Oui, mais... C'est, je vous répéterai toujours ce que je dis. Si je fais une chose, je la fais à fond, c'est tout. Je me donne à fond. Et c'est au fur et à mesure d'avancer là-dedans, en me donnant à fond, que je finis par y croire.
Vous avez dit qu'Othello, Gabriel Baquier, était un de vos rôles principaux, peut-être même celui que vous avez le plus aimé. Mais vous avez aussi chanté Falstaff.
Oui.
Ce sont les deux grands rôles de la fin de la vie de Verdi. Et moi, je vous vois plus comme Falstaff que comme Othello.
Ça n'a rien à voir.
Non, bien sûr. Non, mais je veux dire, votre tempérament est à ce côté joyeux de Falstaff.
Mais le côté dramatique, de toute façon, est aussi important dans Falstaff que dans Othello. Parce que dans Othello, c'est un méchant qui fait les choses par-dessous. Comme ça. Et Falstaff, lui... Il fait ça pour vivre. Alors, bon, ça revient le résultat, même, finalement. Et bon, mais c'est très intéressant. J'ai pris autant de plaisir à chanter. Mais un plaisir différent,
bien sûr.
Mais autant de plaisir dramatiquement que jouer au Othello pour faire Falstaff.
On dit souvent, en tout cas, que vous avez été le grand acteur-chanteur. C'est ce que vous vouliez quand vous étiez jeune, d'ailleurs. Comment vous expliquez cette perfection de la conjugaison de la musique et du théâtre chez vous?
Oui, il n'y a pas 36 solutions. D'abord, il faut se laisser porter par la musique, ne trahir personne. Mmh. Et ensuite, vous jouez un personnage que vous avez étudié à fond et que vous avez autant que possible lu avant, dramatiquement, le livret. Pas le livret de l'opéra, mais le livret de la pièce.
La pièce d'origine.
D'origine.
Ouais.
Et puis voilà. Ouais. Et puis vous laissez porter par ça, avec votre propre tempérament, vous servez ce que vous pensez être vrai pour servir la musique et le drame. Mais il faut l'avoir en soi, ça. Si vous ne l'avez pas en vous, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le servir comme ça. C'est toute l'expérience avec tout ce que vous avez fait avant qui vous amène à ça, finalement.
Et il vous est arrivé, Gabriel Baquier, de faire, malgré vous, des mises en scène que vous trouviez ridicules? On oui. est un peu obligé quand on est chanteur, malheureusement.
Oui, oui. Mais je ne le faisais pas.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que je faisais tout ce qu'on me demandait de faire en répétition.
Et puis vous preniez votre liberté.
Et à la représentation, je ne faisais rien.
D'accord.
Et alors, on me dit, mais comment ça se fait que Gabriel, il oublie tout ce qu'on lui a demandé?
On en était à Falstaff, 1971, et il faut dire que, voilà, on est aussi au moment où s'est passé un grand changement en France. Ça a été la réforme de l'Opéra de Paris.
Quelle réforme ?
L'arrivée de Rolf Liebermann, la fin de la troupe, etc., etc.
C'est pas une réforme, ça.
C'est pas une réforme, c'est quoi, alors ?
C'est un abandon.
Un abandon. Donc vous êtes sévère, apparemment, sur le sujet. Parce qu'on pourrait dire que vous avez fait partie de ceux qui n'ont pas eu à trop souffrir de ce qu'a fait Liebermann, puisqu'il a continué à vous engager régulièrement. Mais néanmoins, vous pensez que ce changement de système de l'Opéra de Paris, la fin de la troupe, la mise en scène de ces grandes productions très luxueuses, ça a été un mauvais tournant pour vous?
Ça dépend ce qu'on va en faire. Il est arrivé là pour introduire dans cette maison un autre esprit. C'est tout. Il s'est trouvé coincé à un moment donné, parce qu'il avait trop de chanteurs, il ne savait plus quoi faire. Ça a été catastrophique, ça.
Pour le chant français.
Ben oui, ça a été catastrophique.
On dit souvent aujourd'hui, quand on soutient cette réforme de l'Opéra de Paris, on dit le niveau de la troupe était très mauvais, il fallait faire venir des chanteurs.
Non, ça c'est le prétexte, faux prétexte. Parce que je vais vous dire, moi, le niveau de la troupe était souvent supérieur à ce qui venait de l'étranger.
Et pourtant, on a fait comme si la vraie musique arrivait soudain avec ses grandes vedettes du monde entier.
Oui, oui. Enfin, non.
Vous pensez que c'est un modèle qu'on pourrait encore aujourd'hui adopter, celui de la troupe de chanteurs permanents?
Bien sûr, puisqu'on a des exemples en Allemagne, ils ne font que ça. Avec la troupe, ils montent tout, sans inviter de l'extérieur en plus.
Et qu'est-ce qu'on a perdu alors en supprimant ces troupes, Gabriel Baquier?
On a perdu ce qu'il faut pour faire le théâtre. C'est-à-dire l'esprit de troupe. Les tréteaux. On arrive quelque part, on déploie les tréteaux et on fait le guignol pendant une soirée pour amuser le peuple. Voilà, c'est ça. C'est l'esprit de troupe. Ça.
Et c'était ça, la troupe de l'opéra comique aussi, c'était comme ça.
C'est un état d'esprit, c'est tout. Mais c'est ce qui marche pour faire le théâtre, ce qui marche.
C'est aussi pour ce qui concerne le répertoire français qui a beaucoup périclité à la suite de ce changement.
Bien sûr, il y en a énormément de répertoires français légers et autres qui sont plus ou moins valables. Mais si on voulait avoir une troupe pour ne jouer que l'opéra ou l'opéra comique français, on pourrait faire des carrières 20 ans, ne serait-ce que le cheminot et les choses comme ça.
Le cheminot de Xavier Leroux.
Le truc d'Adam.
Le chalet.
Arrêtons, le chalet. Alors, c'est pas un chalet où on va passer les vacances. J'en passe les autres. Et moi, je serais plus jeune. Malheureusement, plus jeune, il aurait fallu que ce soit maintenant. Par rapport à ce qu'on voit, je ferais ça. Je monterais une troupe qui jouerait que je vois français.
C'était d'ailleurs un petit peu ce que vous aviez envie de faire à un moment où, avec vos amis, vos vieux amis, Michel Sénéchal et Robert Massard, vous avez essayé de créer un mouvement en faveur de l'opéra français, mais voilà, c'est ça.
On voulait faire ça, on était en avance sur le temps, ça n'a pas marché. Ça serait bien,
Oui.
Ah, ça serait drôlement bien. Ça purifierait l'atmosphère.
Per ridere di mia infelicità.
già la speranza sola delle vendette mie. Quest'anima consola e giubilarmi poi giubilarmi fa. Oh, ti lasciarti in pace, non ho questo contento. Tu non nascesti audace per dare a me tormento, e forse ancor per ridere di mia infelicità. C'ha la speranza sola delle vendette mie, quest'anima consola e giubilarmi fa, e giubilar, e giubilarmi fa, e giubilar, e giubilarmi fa, e giubilarmi fa.
Les noces de Figaro de Mozart, l'air d'Alma Viva chanté par Gabriel Baquier sous la direction de Jésus Etcheverry. On se retrouve demain à la même heure pour la suite de ces entretiens avec Gabriel Baquier. Équipe de réalisation Sandrine Malon, Pierrick Charles, Flora Sternadel, Perrine Mingui. Et vous pouvez podcaster ces grands entretiens sur francemusique.fr.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.